1, 2, 3.
Lilian Thuram,
Roche Dizem,
Mathilde Serrel,
Martin Kenéen.
Roche Dizem, vous êtes comédien, scénariste et réalisateur. Votre prénom, c'est celui du James Dean égyptien, Rushdie Abbasa. Mais avec vous, pas de fureur de vivre. Votre filmographie est réfléchie, éclectique, d'André Téchiné à Rachid Bouchareb, en passant par Xavier Beauvois et Dominique Cabrera. Fidèle aussi, comme ce rôle de capitaine dans Les Hommes du Feu, votre 6e collaboration avec le réalisateur Pierre Jolivet, ce sera en salle mercredi prochain. Lilian Thuram, vous avez été 16 fois capitaine des Bleus durant votre sélection en équipe de France de foot de 94 à 2008. Vous jouez toujours comme défenseur, mais sur le terrain de l'égalité désormais, à travers votre fondation notamment Éducation contre le racisme et cet essai, Mes étoiles noires, de Lucie à Barack Obama, dans le 2e volet d'adaptation en BD paru chez Delcourt sous le titre Notre histoire. Ce soir, dans Ping Pong, un match entre deux hommes qui ont la flamme et le live d'un garçon multiple, Antoine.
Ping Pong, la culture sans limite. Oh, yeah.
J'ai envie d'arrêter le patin l'année prochaine.
Comment ça, tu veux arrêter le patin?
Oh, mais j'en ai trop marre, se lever le matin. Le midi, tu patines encore, tu dois manger dans la voiture. Le soir, tu dois retourner, t'as plein de devoirs, t'es fatigué.
Non, mais Cara, tu dis ça tous les ans, t'arrêtes jamais.
Mais non, tu l'as fait depuis combien d'années tu patines?
10 ans de perdu. Ouais.
Carla Marie, 15 ans, a trop envie d'arrêter le patin à glace. Mais heureusement pour nous, elle prépare d'arrache-pied les championnats de France avec ses copines Aurélie, Amanda et Sarah, l'héroïne de Kiss and Cry, le premier film de fiction de Chloé Maïeux, et Lila Pinel, de jeunes documentaristes qui n'ont pas froid aux yeux Kiss and Cry, ou quand le cinéma direct rencontre le teen movie et la patinoire de Colmar s'embrase de désir et de colère adolescente sous le feu des projecteurs et des paillettes, des costumes de concours, des larmes et des baisers donc, mais aussi toute la violence des échanges en milieu verglacé quand l'entraîneur, charismatique et minable, pervers et tendre Xavier, encourage ses starlettes à se casser la gueule pour approcher la grâce. Quand Snapchat remplace les mots doux et quand on n'a qu'une vie. Kiss and Cry, remarqué à Cannes en sélection à l'acide, sera projeté ce dimanche 2 juillet au Festival du film de La Rochelle, avant sa sortie nationale le 20 septembre. Alors une question pour vous, Lilian Thuram, après une évocation de ces jeunes filles qui se préparent à une carrière de patineuse artistique de haut niveau. Je ne vais pas vous demander de nous livrer vos souvenirs doux amers d'adolescents vous préparant à la carrière internationale que l'on connaît de footballeur, mais qu'est-ce qui était dur à cet âge-là, à 15 ans, quand vous vous entraîniez, qu'en même temps vous aviez les premiers émois adolescents?
Écoutez, c'est pas comparable en fait, parce que lorsque vous jouez au foot, c'est un sport collectif, et donc il y a toujours de l'amusement. Vous êtes avec vos amis, à aucun moment vous pensez à arrêter, par exemple. À aucun moment vous pensez que c'est très compliqué le foot. C'est pas la même chose.
Vous ne faisiez pas le mur pour aller retrouver des filles, faire des fêtes dans les bois?
Mais vous pouvez faire le mur, mais vous n'avez pas envie d'arrêter. Hein. C'est pas compliqué.
Et c'est pas dur le lendemain à l'entraînement?
Non, pas du tout.
Alors, je ne sais pas si vous aimez le patin, je disais, mais je sais que vous aimez bien le football.
Oui, beaucoup.
En revanche, vous êtes passionné, vous êtes amateur, vous êtes à quel niveau de cette footballophilie, si je puis me permettre, histoire d'élever un petit peu le débat.
Pour vous donner un peu un ordre d'idée, je suis abonné depuis 25 ans au Parc des Princes, par exemple. J'ai vu Lilian à chaque fois qu'il est venu jouer contre Paris, notamment. Je peux même dire que je crois que votre premier match, si je me souviens bien, vous avez marqué contre votre camp. C'est vrai ou pas?
Pas très sympa de lui rappeler.
C'est juste pour dire aux plus jeunes, vous voyez, où ça peut mener quand même. On peut marquer contre son camp au premier match.
Commencer par là même.
Et se retrouver champion du monde quand même.
En fait, le premier match que j'ai joué, qui est passé à la télévision, effectivement, c'était à Metz. Et j'ai été catastrophique. Mais vraiment, très très nul.
Donc c'était la pression, c'était la pression du fait que ce soit retransmis, c'était quoi?
Mais un petit peu, parce qu'en fait, la veille, à l'hôtel, j'avais vu un match en Allemagne, et où le joueur avait marqué contre son camp. Et je me disais, demain, il faut pas que je fasse ça quand même, parce qu'il y a tous mes amis, il y a ma famille qui regarde le match, et je m'étais mis la pression. Et donc, j'ai été très très nul.
Vous savez que marquer contre son camp, ça peut aussi être politique. Luther Blissett, c'est un joueur de foot anglais qui marquait contre son camp et c'est devenu une figure de l'activisme. Donc il y avait peut-être quelque chose de la politique qui vous titillait déjà là, Lilian Thuram.
Ouais, peut-être, mais bon, il faut simplement dire aux plus jeunes que c'est en se trompant qu'on apprend. Voilà, c'est ce qu'il m'avait dit à l'époque Wenger en me disant, voilà, ça fait
Arsène
partie.
Wenger,
oui, Arsène Wenger qui m'avait dit, ça fait partie du jeu, voilà.
Et on peut marquer contre son camp au cinéma, Roche Dizem ?
Sous quelle forme ? Veuillez préciser votre question.
Parce que c'est un sport collectif aussi.
Non, c'est un sport collectif, absolument. Oui, oui. C'est d'autant plus que si vous vous appuyez pas sur votre partenaire et s'il vous renvoie pas quelque chose, vous pouvez pas être bon. C'est vraiment quelque chose qui se fait à deux ou à
c'est
plusieurs.
C'est des 1-2 avec...
Absolument. C'est un véritable échange. On puise chez l'autre. Un acteur qui joue seul, je trouve que ça se voit, ça s'appelle du cabotinage, et moi personnellement ça m'intéresse pas. Quand un acteur en fait un peu trop, je regarde souvent celui qui est derrière et qui joue pas. Je suis plutôt attiré par la sobriété.
Mais alors de la sobriété et du jeu collectif, c'est ce soir dans Ping Pong avec Lilian Thuram et Roche Dizem.
Mathilde Serrel.
Vous me demandez pas pourquoi je suis devenu pompier.
Martin Kénéen.
J'imagine que t'as tes raisons, et qu'elles sont bonnes puisque t'es là.
Ping Pong. C'est sur France Culture.
Tu quittes pas ton équipier des yeux, reste bien sur le coup. Parce que des fois, on regarde le spectacle et c'est à ce moment-là qu'on se fait cramer.
On est en présence d'un AVP. Madame, vous m'entendez ?
On ne quitte jamais le théâtre des opérations avant d'avoir tout vérifié.
On n'y voyait pas bien, sérieux.
Ok, mais elle a fait le tour, elle a tout vérifié ?
Ouais, je crois.
Oui ou non ?
Ouais, ouais, je crois.
Mais
il est à 30 mètres, mon mari.
Je vais le regarder mourir à cause de vous.
On m'a pas dit que tu vas arrêter.
Et toi, t'as envie d'arrêter? Tu veux savoir si je pleure de temps en temps, c'est ça?
On est là pour les aider, ils nous crachent dessus.
Bah attends,
c'est super dur.
Ouais,
super
mais dur. Sauf que le truc, c'est que nous, notre boulot, c'est éteindre le feu partout.
Capitaine, vous le prenez pas mal, mais c'est quand même super beau.
Ouais, c'est bon. De loin.
C'est beau de loin, le feu. Nous sommes dans une caserne du sud de la France avec Émilie Dequesne dans le rôle de Béné, avec Roche Dizem dans le rôle de Philippe, le capitaine de la caserne. Le film est de Pierre Jolivet, il sortira mercredi prochain en salle et on y trouve évidemment tout ce qu'on peut imaginer dans la vie des pompiers puisqu'on suit les hommes du feu. C'est pas un film sur les hommes du feu mais avec les hommes du feu, caméra à l'épaule, au contact sur le terrain des accidents de voiture, des suicides, des mariés pendus, des naissances, des victoires, des émeutes. C'est toute la société actuelle, pour vous, Roche Dizem, qui se raconte à travers, en fait, le prisme des hommes du feu, plus Absolument. Qu'un film sur une corporation.
Absolument, c'est tout l'intérêt du travail de Pierre Jolivet, c'est qu'au sein d'une histoire comme ça, c'est un prétexte aussi pour raconter notre société, notamment, par exemple, la place de la femme au sein d'une caserne de pompiers, qui est un milieu très machiste, malgré tout.
Oui, il faut le rappeler, Émilie Dequesne, elle arrive, hein, Bénédicte, au sein de cette caserne.
Elle arrive au sein de cette caserne, et même si les pompiers représentent une famille, il y a quand même des tensions. Et ça raconte aussi ça, quelle place on donne à la femme aujourd'hui. Donc c'est, si vous voulez, c'est une combinaison de tous les fléaux qui entourent nos sociétés, qui est un peu malade, hein, il faut bien le dire. Et à travers cette profession, on raconte un peu tout ça de façon sous-jacente.
Il y a une dimension sociale, mais il y a aussi une très grande dimension d'action, avec d'impressionnantes scènes d'action. Et Pierre Jolivet dit qu'entre autres, il a voulu faire ce film parce que à deux moments cruciaux de sa vie, des accidents de voiture, des pompiers étaient là pour lui sauver la vie. On le ressent dans ce film, Roche Dizem, les policiers, les pompiers et les policiers aussi, à leur façon, sont des interfaces pour chacun des citoyens quand il est question de vie, quand il est question de mort. Vous avez eu aussi affaire aux pompiers, que ce soit pour de bonnes ou de mauvaises raisons, dans des moments cruciaux, comme Pierre Jolivet?
En général, malheureusement, c'est souvent pour des mauvaises raisons. Mais effectivement, je crois qu'on a tous été confrontés un jour ou l'autre à faire appel aux pompiers. Moi, je me souviens qu'ils sont intervenus deux fois pour ma maman et ils l'ont sauvée par deux fois. Donc, on a tous une image très positive du pompier. Mais au-delà de cette image d'épinal aussi qu'on peut avoir, c'était intéressant de voir quelle émotion ça peut procurer chez un homme, finalement. Parce qu'on parle des pompiers... Là, on est dans une caserne de province et il ne s'agit pas d'une unité d'élite. C'est des hommes qui sont des volontaires, donc c'est des hommes ordinaires qui sont confrontés à des situations spectaculaires et parfois même sordides. Et ce qui était intéressant, et c'est ce qu'a traité Pierre à travers ce film, c'est de voir quelles sont les conséquences dans l'intimité, mais aussi dans le groupe, d'être confronté à ça, comme vous dites, à des scènes d'émeute, à des scènes... Ce qu'ils nous disent tous, c'est par exemple, c'est quand ils sont confrontés à des enfants. Ça, ça les marque. Et il n'y a pas de cellule psychologique. La seule cellule psychologique qu'ils ont créée, c'est la leur. C'est-à-dire qu'après chaque intervention, ils se retrouvent autour d'un verre, autour d'un repas, et ils discutent. Mais au moment où ils interviennent, ils sont dans leur rôle avec les liens affectifs qui s'annulent entre eux et avec des gestes bien précis. Donc c'est presque des gestes presque robotiques, mais l'humain reprend le dessus. Et là, il faut discuter, il faut parler, parce que ils rentrent chez eux, ils ont une femme, ils ont des enfants, et ce qu'ils viennent de vivre est souvent traumatisant. Et c'est cet aspect-là que la caméra de Pierre est allée chercher.
Roger Dem, vous avez commencé dans le métier de comédien en poussant la porte où il y avait marqué Actor Studio. Vous aimez bien ces deux mots.
Absolument.
Et finalement, c'est ce qui se passe aussi avec ce film. Une démarche peut-être aussi un peu à l'américaine. C'est-à-dire que vous êtes quand même allé sur le terrain. Vous êtes allé voir ces flammes. Vous avez suivi les opérations des pompiers. Vous dites même qu'à un moment, la flamme, elle vous dit « Viens, je vais te parler ouais. ». C'était parler avec les flammes, ce travail préparatoire.
Non, mais c'est fascinant, le feu. C'est vrai que c'est fascinant. C'est ce qui est dit dans la bande-annonce. C'est beau de loin, mais c'est vrai. C'est-à-dire que il se trouve que effectivement, j'ai fait un stage accéléré avec les pompiers, et j'ai eu entre guillemets la chance d'assister à un incendie de plusieurs hectares de champs de blé. Donc pas d'habitation, etc. Et d'abord, quand on s'en approche, on dit, c'est beau. Le son, ça crépite, le parfum qui en dégage. Et c'est vrai que j'avais tendance à m'approcher de plus en plus des flammes. Ce qu'on sous-estime, c'est la vitesse à laquelle elles se propagent. Et on se fait quelques frayeurs, forcément.
Et vous dites que quand, malgré leur technique, leur méthode et la dimension robotique de leur travail, l'humain peut reprendre le dessus assez rapidement, comme les flammes avancent vite. J'ai eu le sentiment que vous, dans la maîtrise de votre personnage de Philippe, donc capitaine de cette caserne, qui est ce chef d'équipe, qui est très décidé, qui est très organisé, il y a une séquence en particulier où vous êtes face à un incendie et j'ai eu le sentiment que d'une certaine manière, l'humain reprenait le dessus et que la présence des flammes était venue comme vous troubler dans votre jeu. Est-ce que vous avez eu le sentiment que voilà, c'était quelque chose de particulier de jouer en présence des flammes?
C'est-à-dire qu'il y a forcément dans l'intervention, il y a une forme de modestie, ne jamais se croire plus fort que la catastrophe qui se présente. Et ça, c'est ce que j'ai pu percevoir chez le vrai capitaine, parce qu'il existe le Philippe en question, et il était présent, il était à mes côtés, et c'est ce que j'ai pu percevoir chez lui. Il y a son autorité, il y a quelque chose de bien ancré dans son comportement et dans son attitude, mais face au danger, il y a quelque chose qui est très important chez les pompiers, par exemple, ils ne paniquent jamais. Il y a un incendie, on prend le temps, on prend les 10 minutes, les 15 minutes qui sont nécessaires pour prendre le temps, pour savoir comment on va opérer, peu importe ce qui se passe. Et après, une fois qu'on sait comment on va agir, là, effectivement, ils pressent le pas et ils passent à l'action. Mais il est important de prendre ces 10 minutes de concertation et de savoir comment on va se confronter à ça. Et ça m'a fait réfléchir sur ma propre méthode. On a tendance toujours à se précipiter et à faire les choses rapidement. Et je crois que c'est la bonne méthode en plus. Et c'est ce qui permet aussi d'avoir...
Quand un réalisateur dit action maintenant, vous attendez 15 minutes
Si j'en ai besoin, oui. Si j'en ai besoin, oui. Je ne le ferai pas ce soir, évidemment. Mais c'est souvent positif. Après, Ça n'amène que de l'utile et de l'efficace.
Ce personnage de Philippe, il est très intéressant dans les rôles masculins parce qu'il a à la fois une espèce de virilité, de solidité et en même temps tout un tas de choses très réglées, lui au contraire dans son rapport aux femmes par rapport aux autres de la caserne qui vivent assez mal l'arrivée de cette Émilie, donc Émilie Decaen qui est Bénédicte dans le film. À un moment, donc il y a même un de ses collaborateurs qui lui dit « Moi, je peux pas bosser sous les ordres d'une femme, j'arrive pas, c'est pas naturel, ça doit être dans mon cerveau reptilien, j'ai tout le temps peur pour toi. » Et moi, je me suis dit qu'aujourd'hui, on ne pouvait pas ne pas en parler. On a appris le décès de Simone Veil aujourd'hui, 89 ans, qui a œuvré pour la lutte des femmes, pour le droit à l'avortement. Et j'avais envie qu'on évoque peut-être avec vous deux cette figure, peut-être Lilian Thuram d'abord, puisque évidemment, il y a toute une référence au féminisme dans votre fondation. On ne naît pas raciste, on le devient. C'est un dérivé de Simone de Beauvoir, on n'est pas femme, on le devient. Vous êtes très attaché à la pensée de Françoise Héritier sur cette alliance, cette comparaison entre le racisme et la misogynie. C'était qui pour vous, Simone Veil, Lilian Thuram?
Ben écoutez, c'est une femme qui a fait évoluer les mentalités. C'est-à-dire qu'effectivement, à un moment donné, il faut questionner nos habitudes. Et elle, elle a questionné les habitudes en disant, voilà, il faut qu'on puisse donner le droit aux femmes de choisir. Et effectivement, autour d'elle, il n'y avait que des hommes. Et donc, ça a dû être une lutte incroyable. Et ce sont ces personnages qui permettent justement que la société s'améliore. Et c'est vrai que trop souvent, les gens ne font pas le lien entre le racisme et le sexisme et l'homophobie. En fait, c'est toujours des constructions de domination qu'il faut dénoncer. Et effectivement, lorsque je vais dans les écoles, je fais ce lien-là et c'est extrêmement important. Parce que, comme dit Françoise Héritier, qui est une merveilleuse femme et que j'ai énormément de chance parce que parfois je vais la rencontrer et discuter un peu avec elle, eh ben, c'est la matrice de toutes les inégalités, effectivement. C'est la plus vieille et c'est la plus acceptée, c'est-à-dire la domination des hommes sur les femmes. Eh ben, c'est la chose la plus partagée dans le monde. Et malheureusement, tant qu'on n'aura pas dénoncé ces inégalités, eh ben, il y aura encore d'autres inégalités. Donc voilà pourquoi il faut toujours revenir à cette domination des hommes sur les femmes et la dénoncer.
C'est un peu la mère de tout aussi dans les inégalités. Il y aurait cette idée de si on arrivait à défaire ce point-là, il y aurait comme un ruissellement positif, Lilian Thuram.
Pour moi, c'est une évidence. C'est une évidence. Et d'ailleurs, lorsque j'explique aux enfants s'ils veulent plus d'égalité, ils me disent oui. Et j'essaie de leur montrer qu'il y a une histoire. Et eux aussi sont d'accord parce qu'au sein de la famille, les enfants perçoivent très très bien, très rapidement, cette inégalité. Parfois, lorsque vous êtes un jeune garçon noir, vous allez défendre l'idée qu'il faut plus d'égalité pour les personnes de couleur noire. Mais parfois, ils ne comprennent pas qu'eux-mêmes, parfois garçons, ont aussi cette domination sur les femmes. Et donc, faire prendre conscience aux jeunes garçons, aux jeunes filles, qu'il y a cette domination dans nos sociétés, c'est déjà les éveiller et qu'ils comprennent qu'effectivement, il faut commencer à combattre cette domination-là avant de résoudre les problèmes, les autres dominations.
Roche Dizem, pour vous, ça évoque quoi ? Enfin, quoi, c'est un peu terrible comme mot, mais Simone Veil, c'est une figure qui vous a accompagné ?
Non, mais je crois qu'il faut surtout se rappeler du contexte de l'époque, du courage et de l'audace qu'il fallait pour proposer cette loi. Autant pour des plus jeunes aujourd'hui, c'est quelque chose d'acquis et de normal. Il faut essayer de se rappeler à quoi elle a été confrontée avec ce genre de proposition. Elle s'est mise, on peut dire, même en danger. Et c'était il n'y a pas si longtemps. Et donc, c'est une femme d'abord pleine de courage, évidemment, d'une intelligence rare. Rien que d'en parler, j'ai un peu d'émotion, parce que je crois que c'est une des grandes figures emblématiques du monde politique qui disparaît. Et je ne suis pas sûr qu'il en reste encore, et je ne suis pas sûr qu'il y en aura d'autres. À ce niveau-là, en tout cas, avec le passé et le parcours qu'elle a.
Roche Dizem, Lilian Thuram, on évoque avec vous la figure et la personne et l'activiste politique qui était à sa façon Simone Veil. Vous évoquez, Roche Dizem, la société de cette époque-là, au début des années 70, et la société française au début des années 70, c'était aussi ça.
France Inter, il est 8h.
Incendie cette nuit dans un bidonville de Saint-Denis. Plusieurs dizaines de baraques en bois ont brûlé pendant 3 heures.
Un pompier a été légèrement blessé et on est à peu près certain qu'il n'y a pas d'autres victimes. Je dis à peu près car ce bidonville abritait plus de 1000 travailleurs étrangers dont certaines familles qui n'étaient pas déclarées, de telle sorte qu'un recensement précis est difficile. En tout cas, le préfet de la Seine-Saint-Denis a annoncé dès ce matin qu'un nouveau chantier en construction de 900 logements permettrait de reloger une partie des sinistrés qui sont 231 au dernier bilan.
Donc une archive de France Inter en 1970, Interactualité avec cet incendie dans un bidonville à Saint-Denis. Et il se trouve que, avant de vous recevoir, en creusant la question, en réfléchissant à cette question autour de votre rôle d'homme du feu, Roche Dizem, j'ai eu le souvenir, et je ne sais pas si c'est un vrai souvenir, du film dans lequel vous avez joué, Vivre au paradis, qui racontait l'histoire d'une famille qui vit aussi au milieu du bidonville de Nanterre. Et j'avais des idées de, comme si j'avais le souvenir d'un incendie dans ce film. Je ne l'ai pas revu avant de vous recevoir ce soir. Et j'ai appris que votre père a vécu dans le bidonville de Nanterre, et votre famille, et vous-même, vous y avez échappé aussi d'une certaine façon dans votre enfance, parce que vous avez été placé dans une famille, justement pour ne pas vivre dans le bidonville de Nanterre. La présence du feu, la question des incendies qu'on retrouve aujourd'hui dans ce film Les Hommes du Feu, ça a à voir aussi avec cet espace, ce lieu de votre famille, de votre enfance.
Mais bizarrement, moi j'ai toujours aimé le feu. C'est assez étrange. Donc
un pyromane qui est capitaine de caserne, un classique.
Non, mais l'odeur, le crépitement.
Je ne sais pas si vous vous souvenez de ces. Vous savez, dans les cuisines de nos mères, il y avait toujours ces grosses boîtes d'allumettes qui contenaient plus de 200 ou 300. Il n'y avait pas un cas où je ne l'allumais pas. La boîte, vous savez, comme elles étaient bien alignées. Et je me souviens, ça rendait fou mes parents, mais c'était plus fort que moi.
C'était l'odeur, qu'est-ce qu'ils font ?
Je sais pas, c'était de voir ce truc se déclencher, la flamme. Donc j'ai un rapport au feu qui était limite. Hein. Alors ça va, ça s'est calmé avec l'âge, mais enfant, j'étais attiré par ça. Quoi. Je mettais le feu au papier, je mettais le feu à des poubelles. Je me suis soigné tout seul.
Mais être acteur, c'est jouer avec le feu, alors ?
Il faudrait. C'est se mettre en danger, en tout cas. Je crois qu'aujourd'hui, en tout cas, c'est ce que je réalise, surtout avec le temps, avec l'expérience et puis mon âge, c'est que si je ne me mets pas en danger, je vais m'ennuyer. Et je vais ennuyer le spectateur également. C'est aller chercher ce qu'il y a de plus fragile chez soi. C'est-à-dire qu'on parle d'un personnage de pompier carré, etc. C'est-à-dire que quand même, ce qui m'a intéressé à travers ce personnage, c'est sa fragilité, oui. c'est ses failles. Qu'on perçoit surtout la présence féminine de Béné, mais aussi face à sa fille.
D'hommes, oui.
Et c'est ça qui m'intéresse, c'est-à-dire que de voir ce type qui dirige une équipe d'hommes et qui perd tous ses moyens et toute son autorité face à une jeune fille de 17 ans. C'est cet aspect-là qui me séduit, en tout cas.
Qui est sa fille. Et vous avez l'impression qu'en ce quand vous choisissez un rôle, je parlais de l'éclectisme tout à l'heure. C'est vrai que vous commencez avec Téchiné, ensuite chez Xavier Beauvois dans N'oublie pas que tu vas mourir, ça va être un peu le démarrage. Il y a aussi Rachid Bouchareb avait un autre démarrage assez fort, puisque à la fois il y a ce prix d'interprétation à Cannes pour Indigène, et puis dans la foulée, vous commencez votre carrière de réalisateur, de metteur en scène, comme s'il y avait quelque chose aussi là qui s'était allumé. Vous avez l'impression à chaque fois d'aller chercher comme ça dans la boîte d'allumettes quand vous choisissez un film.
Non, mais c'est vrai qu'il y a les premières années où d'abord j'ai pas choisi. J'ai pas choisi de travailler avec Téchiné, j'ai pas choisi de travailler avec Beauvois ou avec Patrice Chéreau. C'est eux qui m'ont choisi. Et j'ai eu de la chance, parce que je suis tombé sur des bons en plus. Et qui ont été bienveillants avec moi. Et durant toutes ces années, en plus, on m'a laissé apprendre mon travail tranquillement, parce que je n'avais pas de formation d'acteur. Et ça a été une chance incroyable, parce que les caméras ne sont pas braquées sur vous, ni les médias d'ailleurs. Et donc, vous pouvez travailler comme ça, tranquillement, en silence, sans qu'on vienne parasiter votre évolution. Et puis après, effectivement, il y a eu ces rôles plus conséquents, et puis, des films plus populaires également. Et là, on se rend compte de la chance qu'on a, et on la saisit, et on se dit, il faut l'optimiser. Et donc, ça passe par le travail. Et par les choix, évidemment. Donc, étant évidemment fils d'immigré marocain, je me dis surtout, on va essayer de sortir de tous ces rôles stéréotypés et essayer de faire évoluer un peu. Et je suis tombé aussi, encore une fois, sur des metteurs en scène qui m'ont permis ça. Parce qu'on dépend du désir des autres. Et ça, c'est important de le préciser, parce que je crois qu'il y a eu une nouvelle génération. J'ai grandi, je pense que Lilian aussi, avec un cinéma très blanc. Et ça nous allait, hein. On était très contents de voir
Belmondo. C'était Bébel.
Oui, bien sûr. Et ça nous allait. Et on n'était pas choqués de se dire, tiens, c'est marrant, on n'est pas représenté. On trouvait ça normal. Sauf que les choses ont évolué. On est là depuis très longtemps. On est né ici. On se sent totalement français. Je suis en France depuis 52 ans. Et c'est vrai que le cinéma a permis aussi de changer cet aspect de la société. Le fait aujourd'hui de voir des gens issus de la diversité au cinéma, à la télé... Aujourd'hui, dans l'esprit collectif, c'est quelque chose de tout à fait normal. Et ça, je crois que c'est une vraie progression, même si il y a encore des efforts à faire, évidemment.
L'étincelle de réalisateur, pour continuer dans les métaphores abrasives, sans en abuser, je disais.
L'étincelle de réalisateur, elle est, encore une fois, c'est encore un coup de pouce. C'est-à-dire que moi, ce qui m'intéressait, c'était l'écriture, se raconter. Et à travers une première histoire, comme ça, un scénario où j'ai été aidé, ensuite, on m'a aidé à structurer l'histoire que je voulais raconter. C'est un producteur, Philippe Godot, qui m'a dit « Eh ben très bien, maintenant tu vas le réaliser ». Et je ne sais pas pourquoi, à cette époque, de façon totalement inconsciente, je me suis dit « Avant qu'il change d'avis, je vais accepter ». Et je me suis lancé tête baissée dans cette aventure. Et, Et ça m'a plu et j'ai trouvé ça passionnant et forcément, bah, ça m'a donné envie de continuer.
Lilian Thuram, puisque vous nous mettez le feu ce soir hein, avec Roche Dizem, et puisqu'il évoquait les metteurs en scène qui l'ont choisi, vous, il y a une sorte de metteur en scène que vous évoquez, ce sont évidemment les entraîneurs. Il y a Arsène Wenger qui est présent dans ce tome 2 donc de Notre Histoire, qui relate à la fois votre histoire et vos débuts dans le football. C'est cette BD donc chez Delcourt que vous avez co-écrite avec Jean-Christophe Camus et Sam Garcia au dessin. Et en même temps, il y a d'autres figures, on le voit dès la couverture, il y a des figures qui jouent avec le feu. Il y a Angela Davis, on a beaucoup parlé de James Baldwin cette année, la prochaine fois le feu. Mais il y a aussi ces pharaons noirs venus de Nubie, du Soudan. Puisqu'on parle du feu, le feu, il a quelle place, vous, dans votre imaginaire? C'est un feu politique? C'est le feu des dieux, des croyances égyptiennes, ou c'est carrément la boîte d'allumettes sur la gazinière?
Ben, tout d'abord, moi aussi, j'adore le feu. Par exemple, aux Antilles, il y a un moment juste incroyable. C'est lorsqu'on met le feu dans les champs de canne à sucre avant les récoltes. Avec l'odeur, les images, c'est juste extraordinaire. Mais le feu, c'est aussi recommencer. Recommencer les choses. C'est-à-dire, à un moment donné, il faut être capable de dire « ça ne me va pas ». On va passer à autre chose. Donc, la prochaine fois, c'est le feu. Ça veut dire que la situation dans laquelle nous sommes aujourd'hui n'est plus acceptable. Donc, il va falloir que nous réfléchissions tous ensemble à comment nous voulons renaître. Et donc, voilà pourquoi le feu est important pour dire, oui, nous devons apprendre à mieux nous connaître. Il est important, qu'il y ait plus de diversité à la télévision, dans les médias. C'est important. Pourquoi? Parce que ça va changer l'imaginaire collectif. Et si ça change l'imaginaire collectif, eh ben, ce sera une autre société. Le feu, c'est pas toujours extrêmement négatif.
Recommencer quelque chose, cette métaphore-là, on le retrouve dans les personnages que vous avez choisis dans vos Étoiles Noires. Par exemple, Harriet Tubman, c'est quelqu'un qui, quelque part aussi, recommence sa vie, puisque elle va braver la mort promise aux esclaves qui fuient, et elle va défendre les droits des femmes dans une communauté qu'elle rejoint. Donc c'est toujours un peu ça aussi que vous avez cherché dans vos Étoiles Noires, des gens qui décident comme ça de court-circuiter.
Ben en fait, pour moi, avant tout, ce sont des personnages qui comprennent la réalité de leur société. Pourquoi ? Parce qu'ils ont été éduqués et en fait, ils ont un regard en disant « voilà, nous vivons comme cela, nous pouvons construire quelque chose de différent ». Et c'est pour cela que je dis que l'éducation, c'est très important parce que ça vous met en mouvement. Vous ne subissez plus votre vie. Et Harriet Tubman, c'est ce qu'elle fait. Elle dit très souvent « j'aurais pu... »
On est au 19e, hein, je rappelle.
Voilà, « j'aurais pu sauver... » plus d'esclaves, mais ils ne savaient pas qu'ils étaient esclaves. Parce que ils subissaient leur vie. Et donc, les personnages, que ce soit Tarka, Angela Davis, Philip Twisley, ce sont des personnes qui ont été éduquées à comprendre qu'un monde nouveau pouvait naître.
Et peut-être un mot, puisqu'on parlait de Roche Dizem comme réalisateur, sur Chocolat. Est-ce que c'est une figure pour vous qui aurait été intéressante dans Nos Étoiles Noires, Lilian Thuram, dans cette espèce aussi d'affranchissement par rapport à son partenaire Footit, cette tentation aussi d'aller faire du théâtre classique, là où on veut ne voir qu'un amuseur, où on le caricature?
Ben effectivement oui, parce que encore une fois, Chocolat, c'est ok, je prends le rôle que vous me donnez, mais je vais dépasser ce rôle-là. Je ne vais pas rester que dans ce rôle que vous voulez que je joue. Et c'est ça l'intelligence. Et ce sont ces personnages-là, justement, qui font évoluer la société. Mais en règle générale, ceux qui sont dominants ne veulent pas que les autres arrivent dans une certaine égalité. Et donc, à partir du moment où vous allez vouloir changer la société, il va y avoir toujours des gens qui vont vous dire non. Voilà pourquoi, effectivement, que l'égalité... Il faut expliquer, notamment aux plus jeunes, eh ben, ça se gagne, ça ne se donne pas. Donc, il faut aller chercher l'égalité.
Roche Dizem, c'était ça pour vous, ce clown chocolat que vous avez oui. C'est votre quatrième long métrage avec Omar Sy dans le rôle titre.
Non, mais en plus, c'est vraiment... pour moi, c'était vraiment... J'espère que les gens ont bien compris que c'était aussi une métaphore sur notre société actuelle. C'est-à-dire que c'est une histoire qui a eu lieu il y a 100 ans et on s'aperçoit que les choses ont peu changé. On est dans une société, en France notamment, mais dans beaucoup de pays également, où on pratique beaucoup la discrimination à l'embauche. Et c'est intéressant par rapport au sport, par exemple. Le sport, c'est quelque chose qui se calcule, qui se chronomètre, où il y a des scores. Donc, c'est facile de voir qui sont les meilleurs. Mais sur le marché de l'emploi, on est dans un pays, et c'est pas moi qui le dis, c'est Emmanuel Macron qui pratique, 4 entreprises sur 5 pratiquent la discrimination à l'embauche. Sur quelle base? Et c'est un vrai problème, c'est un pays qui se tire une balle dans le pied. Et si vous voulez, c'est pour moi, il était intéressant de faire, par rapport à ce film, un parallèle avec notre société actuelle et de voir pourquoi on rejette des gens qui sont issus d'un autre pays, mais pas seulement. Des fois, c'est juste une situation géographique. Des fois, c'est juste un handicap. Des fois, c'est juste parce que c'est une femme. Et j'ai l'impression qu'il y a quelque chose d'inscrit dans nos gènes qui ne nous permet pas d'avoir cette philanthropie-là, qui permet de s'accepter tous, mais surtout sur des bases réelles et naturelles. C'est des rejets qui sont basés sur rien, sinon sur une forme de racisme, mais idiot. Les anglo-saxons, par exemple, ne sont pas plus ou moins racistes que les Français, mais ils sont dans l'efficacité, ils sont pragmatiques. C'est-à-dire, vous êtes noir, vous êtes ce que vous voulez, je m'en fous, à partir du moment où vous faites bien votre travail. Et je crois que c'est cette étape-là qu'on n'a pas encore franchie en France.
Lilian Thuram ?
En fait, moi, je pense que quand même que le racisme, on oublie très souvent de dire qu'effectivement, il y a des gens qui sont discriminés, mais il y a aussi des gens qui sont avantagés. Et en fait, le vrai problème, c'est que les personnes qui sont avantagées veulent rester dans cet avantage. C'est pour ça que je parle très souvent de la domination. C'est-à-dire, lorsqu'on parle des problématiques des femmes, très souvent, on oublie que les hommes sont avantagés et que ce sont les hommes qui veulent pas que les choses changent. Lorsqu'on parle du racisme lié à la couleur de la peau, c'est exactement la même chose. C'est-à-dire que, historiquement, les personnes de couleur blanche ont été éduquées à être dominants. Et effectivement, très souvent, ils n'acceptent pas l'égalité. C'est-à-dire que chocolat, je l'accepte jusque au moment où lui décide de vouloir faire autre chose. Et c'est ça le problème du racisme. Et on lui dit non, chocolat, tu n'es pas fait pour ça. Toi, tu dois nous faire rire. Rien d'autre. Et donc, voilà pourquoi il est important de discuter de cela. Et dernièrement, je lisais un auteur américain qui disait quelque chose de très important. Tant que on ne comprendra pas que le sexisme, c'est le problème des hommes, on ne pourra pas avancer. Tant qu'on ne comprendra pas que le racisme lié à la couleur de la peau est le problème des personnes de couleur de blanche, on ne pourra pas avancer. Et très souvent, je dis aux enfants, les enfants, faites attention. Vous savez, l'homophobie, c'est pas le problème des homosexuels, ce sont les hétéros qui ont un problème. Parce que c'est eux qui voudraient décider à savoir ce que les homosexuels ont le droit de faire ou non. Et donc, je pense que nous devons réfléchir à tout cela.
1, 2, 3. À suivre dans Ping Pong, l'intelligence du jeu de Lilian Thuram, et on verra que son problème, c'est le cinéma, sans aucun doute, et que le problème de Roche Dizem, c'est donc la bande dessinée et les passements de jambes au football.
Et puis nous partirons à Saint-Malo, ICO, avec le live d'Antoine.
Mathilde Serrel, Martin Kénéen, Ping Pong, c'est sur France Culture.
Du lion et de la mouche. Une mouche, un jour, défia un lion au combat. Elle le vainquit de cette manière. Le piqua à l'échine, puis au flanc, puis en saint endroit. Entra dans ses oreilles, ensuite au fond de ses naseaux. En un mot, elle le harcela tant que de rage de ne pouvoir se mettre à couvert des insultes d'un insecte, le lion se déchira lui-même. Voilà donc la mouche qui triomphe, bourdonne et s'élève en l'air. Mais comme elle vole d'un côté et de l'autre pour annoncer sa victoire, l'étourdie va se jeter dans une toile d'araignée et y reste. Hélas, disait-elle en voyant accourir son ennemi, faut-il que je périsse sous les pattes d'une araignée? Moi qui viens de me tirer des griffes d'un lion?
Du lion et de la mouche, une fable d'Ésope sur France Culture dans Ping Pong. Mais alors pourquoi, Lilian Thuram?
Ben parce que en fait, dans la bande dessinée, je raconte l'histoire d'Ésope. Et très souvent, les gens connaissent Ésope, ils connaissent Jean de La Fontaine, mais ils ne font pas le rapprochement. Et je trouve c'est très intéressant de dire qu'Ésope était un personnage noir et qu'en fait l'intelligence n'avait pas de couleur. Et qu'il est très important d'éduquer les enfants à avoir des étoiles de toutes les couleurs.
Mais comment est-ce que vous avez été mis sur la piste du vieil Ésope?
Mais en fait, j'ai dû me questionner sur la couleur de ma peau très tôt. Je suis arrivé dans la région parisienne à l'âge de 9 ans. J'ai eu un regard extrêmement négatif sur ma couleur de peau, donc j'ai dû me questionner. Et tout au long de mon adolescence, j'ai essayé de trouver des personnages qui pouvaient m'expliquer que l'histoire des populations noires ne commençait pas par l'esclavage. Il y avait une autre histoire. Et donc j'ai rencontré des personnes qui m'ont donné des livres à lire. Et donc voilà comment j'ai rencontré Ésope.
Le vieux Nedo qu'on...
Exact,
qu'on découvre dans notre histoire, volume 2, donc cette bande dessinée chez Delcourt.
Donc Nedo, c'est un personnage de la cosmogonie Peul. Et en fait, pour moi, ce personnage est très important parce que Nedo, c'est un peu toutes les personnes qu'on va rencontrer tout au long de notre vie et qui vont nous mettre sur des chemins de connaissances. Tout à l'heure, on parlait de bienveillance. C'est-à-dire que vous allez rencontrer dans votre vie des personnes bienveillantes qui vont vous aider à grandir. Et donc, pour moi, c'était très important qu'il y ait ce personnage de Nedo.
Vous êtes une sorte de vieux Nedo aujourd'hui, retraité, ayant raccroché les crampons, Lilian Thiram ?
Ben écoutez, oui, ça me plairait d'être un Nedo. Ça voudrait dire que j'aide des personnes à trouver leur chemin.
Vous avez rencontré des Nedo, vous, Roche Dizem, on parle de votre collaboration avec les Téchinés et les Beauvois au début de votre carrière, bienveillante, mais il y a eu des transmissions comme ça.
Oui. En regardant ce personnage, oui, effectivement, j'ai eu la chance de tomber sur des gens comme ça qui vous donnent accès au savoir et à la culture, chose qui nous a sans doute échappé quand on était plus jeune. Enfin, en tout cas, on n'avait pas saisi l'importance mais je dirais même l'utilité pour la suite, le pouvoir de connaître l'histoire, le pouvoir des mots, l'éloquence, c'est la meilleure arme dans la vie, dans n'importe quel domaine.
Alors vous avez, à propos d'histoire, est-ce qu'il y a une figure qui mériterait
un Edo, un passeur ?
Non, mais je vais vous dire, quand j'ai tourné avec Téchiné, par exemple, je ne sais absolument pas qui était André Téchiné, ni Patrice Chéreau. Mais ces gens-là m'ont donné envie de découvrir un autre cinéma, autre chose que du cinéma populaire. Je continue à en voir du cinéma populaire, je suis pas en train de dire
vous
qu'il
faut le réaliser même. Hein.
Mais, oui, mais ce qui me paraît important, c'est de connaître effectivement l'histoire du cinéma et du coup aussi de la littérature. Et on s'aperçoit que en s'intéressant à l'histoire, par exemple, on s'apprend nous-mêmes. On apprend ce qu'on est, on apprend d'où on vient, et on apprend comment les choses ont évolué et comment on en est arrivé là. Et je vais vous dire, je crois que c'est surtout ça, aujourd'hui, qui frustre une certaine partie de la population, c'est de ne pas se connaître. Et j'ai vu l'effet, par exemple, indigène sur les plus jeunes, d'apprendre que leur grand-père s'était battu aux côtés de la France. Et aujourd'hui, c'est dans les livres d'histoire, hein, depuis le film.
Le film de Rachid Boucharel, en 2006, sur ce qu'on appelait les tirailleurs sénégalais, mais qui sont
les
vastes colonisés.
Absolument. Et ben, je vais vous dire, ça détend, ça soulage. Et ça, c'est important.
Vous avez des figures historiques, puisqu'il y en a quelques-unes qu'on croise au fur et à mesure de cette bande dessinée, Notre Histoire, donc signée par Lilian Thuram. Il y a comme ça des figures qui vous servent d'étoiles, à vous aussi ?
Alors là, pour moi, la plus belle référence, ça reste Nelson Mandela. De par son combat, évidemment, mais surtout cette attitude qu'il a eue après. Il n'y avait pas de haine, il n'y avait pas de colère, il n'y avait pas de désir de vengeance. Il a eu de cesse d'avoir un dialogue de paix et de pacification. Tu voulais dire quelque chose, Lilian ?
Non, vas-y,
allez-y sans lever le doigt.
Il n'est pas d'accord.
Comment je peux ne pas être d'accord ? Mais en fait, ce qui est très intéressant, c'est vrai que, par exemple, les personnages de la bande dessinée, comme Nelson Mandela, en fait, ils comprennent qu'en fait, le problème, c'est pas entre les gens de couleurs différentes, c'est le système dans lequel nous vivons. Et très souvent, c'est le système économique qui nous emmène à l'affrontement. Et donc, c'est ce qui est très important. C'est-à-dire que, par exemple, il faut dire aux gens que l'esclavage ou la colonisation, c'est pas un rapport de domination entre couleurs. C'est un système économique qui construit un discours. Et il faut qu'on arrive à déconstruire ce discours pour que chacun de nous, et peu importe notre couleur, nous nous battons pour l'égalité.
Finalement, qui construit a posteriori, qui justifie un peu a posteriori pour des nécessités tout à fait de contingence économique et pécuniaire. Si on reparle de Nelson Mandela, il y a cette phrase de Nelson Mandela, je ne perds jamais.
Soit je gagne.
Soit je gagne, soit j'apprends. Ça vous guide ?
Je l'ai mis sur mon mur Facebook. Je ne peux pas vous dire mieux. Non, mais c'est une réponse à
tout. Ça veut tout dire. Hein.
Non, mais j'adore cette phrase. Non, mais elle ne peut que vous guider. En plus, elle est valable dans tous les domaines, aussi bien dans la vie, en amour, dans le sport, évidemment. Et c'est d'une intelligence et d'une simplicité fascinantes. On ne peut pas dire mieux.
Est-ce que vous avez appris des choses au cinéma ? Lilian Thuram, puisqu'on est avec Roche Dizem, acteur et réalisateur. Il y a des films qui ont pu vous faire l'effet d'une rencontre comme celle que vous racontez dans votre histoire ?
Ah oui, complètement. Par exemple, il y a un film qui a changé ma vie, c'est Jonathan Livingston, Le Goéland. C'était assez incroyable. J'étais avec un ami qui regardait ce film et je me dis, tiens, le mec, il est en train de regarder un goéland. N'importe quoi. Et donc, je m'arrête et tout d'un coup, j'écoute et ce film a changé ma vie. C'est extraordinaire. Après, dernièrement, il y a eu le film de Raoul Peck, Je ne suis pas votre nègre.
Sur James Baldwin.
C'est juste incroyable. C'est extraordinaire. Je suis sorti de la salle en pleurs.
Qu'est-ce qui vous a fait pleurer, par exemple, si vous vous reprochez l'idée qu'un James Baldwin n'existe pas en France, pour comprendre aussi bien cette domination qu'il y a dans l'Amérique blanche sur les Noirs, de ne pas avoir une figure comme ça ?
Non, pas du tout. En fait, c'était rassurant. Parce que, historiquement, il faut comprendre quelque chose. C'est-à-dire que, historiquement, les femmes ont été éduquées à ne pas contrarier les hommes, ne pas dire certaines choses. Les Noirs ont été éduqués à ne pas contrarier les Blancs. Et là, tout d'un coup, il y avait la parole de James Baldwin qui disait des choses vraies. Et là, on se dit, ah ouais, ok. Après ce film, on peut passer à autre chose. On peut discuter sereinement. On peut comprendre l'histoire. On peut comprendre que chacun de nous, nous avons été conditionnés dans un sens. Donc ce film est juste incroyable.
Roche Dizem, après cet ouvrage, ce tome 2, Notre Histoire, Lilian Thuram, vous évoquez le fait que vous avez le désir d'aborder d'autres ségrégations, celles liées à la religion, celles liées à l'homosexualité. Vous êtes affronté à ces questions de la religion sous l'angle de la comédie avec votre premier film, Crise de foi.
Mauvaise foi.
Mauvaise foi, ouais, vous voyez.
Mais ça marche aussi.
Mais ça aurait pu être ça aussi. Hein. Ça aurait pu être ça.
Et vous avez le sentiment que dire les choses comme vous avez essayer de le faire, justement en prenant les moyens aussi de la comédie, ouais. C'est malgré tout très difficile d'être entendu quand on essaie de dire le vrai.
Oui, mais c'est vrai que de dire ça, de choisir entre guillemets la légèreté, permet de dire plus de choses. Et je dirais même c'est dommage qu'il s'agissait là de mon premier film parce que je pense que j'aurais pu aller plus loin. Et je crois que par rapport à la religion, on manque de légèreté, on manque d'autodérision.
C'est un couple, hein, rappelons-le, il est musulman, elle est
oui,
juive,
absolument.
Et ça pose pas de problème jusqu'au jour où ils se marient.
Mais étrangement, quand vous allez dans les pays qui sont très concernés par la religion, en Iran, etc., par exemple, il y a là des humoristes qui vont très très loin dans la forme d'humour. En France, on est un peu timide, on est un peu sclérosé, on a un peu peur de tout. Et moi, le premier, sur mon premier film, j'étais quand même... Même si j'avais écrit avec Pascal Elbé, donc qui est juif, et je lui disais, toi, tu vas écrire les blagues sur les juifs, et moi, je vais écrire les blagues sur les musulmans. Et après, on s'est dit, ah non, faisons l'inverse, en fait. Et puis, bon, voilà, mais c'est pour vous dire quand même la difficulté que ça peut représenter.
There is a conspiracy to wipe out the murder of every single black person.
A communist, a black, a woman, an activist. You couldn't have put things together more problem-creating than Angela Davis.
This is genocide!
Free Angela and All the Political Prisoners, le film de Shola Lynch qui est sorti en 2012. À l'instant, c'était un extrait Lilian Thuram. Je ne sais pas si vous l'aviez vu, vous parliez tout à l'heure du documentaire de Raoul Peck sur James Baldwin. Celui-là, donc, qui retrace le combat de Angela Davis, juste pour traduire ce qu'on a entendu. On ne pouvait pas faire pire, hein. Une femme activiste, noire, communiste, qui défend les prisonniers. Enfin, ça accumule. C'est un peu comme Allen Ginsberg, hein, dans son poème Hall. Voilà, on est homosexuel, on est juif. Enfin, bon, bref. On a tout ce que la Camé, exactement. On a tout ce que la société rejette d'une certaine manière. Je ne sais pas si vous aviez vu ce documentaire-là, parce que ce qui est intéressant, évidemment, vous mobilisez Angela Davis dans vos Étoiles Noires parce que c'est une figure de combat. Mais est-ce que ce qui est important aussi, c'est la façon dont on la transmet cette histoire. On ne va pas faire n'importe quel documentaire ou n'importe quel récit. Je veux dire, la question de la forme, de la façon dont vous posez les choses, c'est quelque chose qui vous hante et peut-être que vous n'aimez pas lorsque c'est mal fait.
Mais en fait, pour moi, Angela Davis, c'était l'occasion de montrer qu'on ne change pas les choses tout seul. Parce que c'est vrai que l'histoire a tendance à retenir une personne, par exemple Nelson Mandela. Et on oublie que derrière, il y a eu des millions de personnes qui ont porté ce combat. Et Angela Davis, c'était pour montrer que sa lutte est devenue à un moment donné internationale. Et c'est ce qui a permis qu'elle soit restée en vie. Et donc, c'était très important de dire que chacun de nous, nous avons aussi un rôle à jouer. Parce que très souvent, il y a des gens qui vous disent « Ouais, mais bon, on voudrait que les choses changent » et ils ne font rien. Et donc, il faut dire aux gens « Non, chacun de nous, nous avons un rôle à jouer et tous ensemble, on ira plus loin. »
Et pour continuer le combat, Lilian Thuram, il y a donc votre fondation, vous intervenez par exemple en milieu scolaire, il y a ce livre sur vos étoiles noires, il y a donc désormais cette bande dessinée, là c'est le tome 2, notre histoire. Une bande dessinée, ça a pu aussi jouer un rôle dans votre histoire, à vous, Roche Dizem ?
Moi, mes premières lectures, c'était des bandes dessinées, oui, bien sûr.
Et c'était quoi alors ?
Alors,
il y avait
c'était des super-héros.
Non, mais oui. Alors, c'était, je ne sais pas si vous avez connu ça, les Ambla, les trucs comme ça. C'était des petits bouquins de poche avec des personnages comme ça. C'est très difficile à raconter en fait, mais qu'on s'échangeait en fait. On avait tous chacun une valise et on échangeait. C'était essentiellement de la bande dessinée, des Strange, qui était très à la mode à l'époque.
Donc des comics. Hein,
et puis après, ça a évolué. Après, la bande dessinée a évolué aussi. Et puis, évidemment, il y a eu Margerin, il y a eu Gottlieb, il y a eu tous ces gens-là, qui ont Fuite Glaciale et tout ça, qui ont bercé mon adolescence, oui.
Lilian Thuram, je parlais de la forme tout à l'heure. C'est vrai que vous nous avez répondu sur la figure d'Angela Davis comme une figure comme ça émergée, qu'il fallait aussi en faire entendre d'autres. La bande dessinée, vous l'utilisez donc là dans la transposition de votre essai. Il y avait aussi cette BD de super-héros à l'école, des super-héros de l'égalité. Voilà, dans la façon dont on la raconte, dont on la transmet, l'histoire, c'était aussi important pour vous de trouver un médium populaire à un moment. C'est pas juste justement d'être dans une bibliothèque au rayon essai, mais aussi d'aller toucher d'autres publics.
Ben c'est vrai qu'il faut essayer de toucher notamment les enfants, parce que les enfants sont moins conditionnés que les adultes. Et c'est vrai que passer par le biais de la bande dessinée m'a paru une très bonne idée.
Eh bien,
ping-pong, la culture sans limite.
C'est une très bonne idée, en effet. Vous connaissez peut-être Étienne de Gajpati. Vous écoutiez peut-être Duran Duran, voire A.A. Bref, vous avez toujours été fan, d'une certaine manière, d'une musique répétitive. Eh bien, du binaire, je vous propose de passer au ternaire avec Antoine. Antoine Mounier, de son nom, il fait de la cool pop avec un K. Il me fait penser à Antoine Douanel devant son miroir dans Baiser volé. Antoine Douanel. Il paraît qu'il prend même des bains avec Philippe Catherine. C'est parti, tous en route à Saint-Malo.
Laisse-toi aller sur ce tempo. Laisse-toi guider par ton mojo. Les filles dansent tout en synchro. On est bien dans le château à Saint-Malo. On est bien tous ensemble, on est bien tous ensemble, on est bien
C'est tout ça, c'était magnifique, on est bien tous ensemble. Gilles Coronado qui accompagnait Antoine, à l'instant, le dernier live de Ping Pong, mais l'album il sortira dans le Turfu futur en septembre. Le Ping Pong. Vraiment fini le ping-pong en fait. Ah attaqué par un bouchon de champagne, tandis que des gens légèrement éméchés depuis 24 heures nous rejoignent à l'intérieur du studio 108 de Radio France. On va servir un verre à nos invités parce que trinquer à la cristalline, ce serait dommage.
Oh, je disais, dans un gobelet en plastique, vous avez un peu de champagne.
Oui, c'est rare.
Je sais pas si Lilian Thuram avec sa diététique de champion.
Je peux boire la santé de
Ping Pong.
Pas mais de Pauline Pudding en salopette.
Et Pauline Pudding en salopette, voilà. Alors.
C'est parti.
Mais est-ce que vous avez un souvenir de Ping Pong? Parce que c'est l'heure des souvenirs. On vous a invité un peu pour le jubilé de Ping Pong, Lilian Thuram, Roche Dizem. Vous êtes notre variété club de France à nous.
Ouais.
Un souvenir de Ping Pong en culotte courte avec. Des techniques, des conseils
Le problème, c'est que nous, on faisait que des sports où il n'y a pas besoin de matériel. Donc, une balle de foot, le cas échéant, parfois de la pétanque. Mais le ping-pong, il fallait les raquettes, la table.
Il y avait trop de matériel.
Trop de matériel.
Lilian Thuram,
vous êtes déjà
les locaux de l'AS Monaco, il y avait sûrement une table.
L'année dernière.
Oui,
dans
alors.
Cette émission, peut-être un souvenir de ping-pong radiophonique.
Alors, ce sera le souvenir d'aujourd'hui quand même. Parce que c'est juste incroyable d'être là et de vivre ce moment-là. Et de se dire, c'est incroyable, qui sont ces personnes qui sont en train de danser?
Voilà, c'est ça,
dans
oui.
Le studio.
Des personnes qui, voilà, qui travaillent pour France Culture et qui du coup boivent de la bière, disons-le, alors voilà. Que les invités boivent du champagne.
Très
on est vraiment dans le
voilà.
Système.
L'abus d'alcool est évidemment dangereux pour la santé.
Surtout quand on joue au ping-pong.
Alors le ping-pong, on peut le dire, c'était un voyage radiophonique qui s'est fait en équipe. Et quelle équipe ? À la rédaction, Aïssatou Ndoye, Jeanne Aléos, Seam Boutata, Anna Baron, mais aussi Mathilde Cadreau, Selena Terret, Chloé Leblon, Lila Bozès, Chouchane Djergaillan, Hélène Dely, Sébastien Thème à la réalisation, Thomas Beau, le bien nommé, oui, une belle âme, à la prise de son ce soir, Emmanuel Morse, d'accord, Rafik Zénine, juste derrière. On remercie nos invités, quand même.
Merci à vous deux.
Merci à vous de nous avoir reçus.
Moi, je disais, ce baptême du feu, donc Les Hommes du Feu, c'est le nouveau film de Pierre Jolivet qui sera en salle mercredi prochain. Vous tenez la vedette avec ses 1-2, donc face aux flammes, dans la compagnie d'Émilie Dequesne. Et merci à vous, Lilian Thuram. Vous êtes venu nous présenter Notre Histoire, volume 2, cette bande dessinée avec Jean-Christophe Camus et Sam Garcia, publiée chez Delcourt dans la collection Mirage.
Merci à la 500aine d'invités qui sont venus pendant ces deux saisons passées à croiser les univers, les parcours, les affinités intuitives ou affirmées. Lundi, à la place de ping-pong, eh bien, ce sera la diffusion des masterclass dirigées par Arnaud Laporte, Yasmina Reza pour ce lundi. Mais tout de suite, à voix nue avec Michel Rocard.